Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, de nouvelles et massives manifestations contre le pouvoir à Hong Kong. British Airways, seule compagnie à ce jour à annuler ses rotations avec le Caire en raison de risques terroristes. La dernière salve en date de Matteo Salvini contre SOS Méditerranée, l'ONG a repris ses opérations de sauvetage. Greta Thunberg à Caen pour recevoir le prix Liberté que lui a décerné un jury de lycéens. Et enfin, la dernière chronique d'Arnaud Laporte à Avignon intitulée « Après le théâtre et la danse, la musique ». Rien de moins qu'une lutte pour des acquis démocratiques et des libertés, liberté d'expression et indépendance de la justice, d'où ces mobilisations à répétition depuis des semaines et bien après la suspension du projet de loi qui a fait office d'étincelle, celui-là même qui autorise les extraditions de justiciables en Chine communiste. Ils étaient encore des centaines de milliers dans les rues de Hong Kong à demander la démission de la chef de l'exécutif local, Carrie Lam. C'est un reportage de Florence de Changy.
Alors que la nuit est tombée et que les manifestants ont bloqué plusieurs routes sur l'île de Hong Kong, la police a d'ores et déjà sorti des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule, notamment devant le bureau de liaison de Pékin, le bureau des autorités centrales à Hong Kong. Car les manifestants sont finalement allés plusieurs kilomètres au-delà de la route autorisée par la police. Jusque-là, la police avait pour ainsi dire été invisible et ce nouvel après-midi de marche s'était déroulé dans une ambiance des plus pacifiques. Il faut dire que les Hongkongais sont rompus à l'exercice. Ils ont leur patch de froid sur le front, le ventilateur à pile et la bouteille d'eau à la main, le sac sur le dos. Parmi eux, un grand costaud, masqué de noir jusqu'aux lunettes, nous explique la signification de l'immense drapeau noir qu'il porte et brandit dans la foule.
D'abord, c'est en continuation de notre code vestimentaire, car nous sommes tous en noir. Ensuite, un drapeau noir, c'est l'opposé d'un drapeau blanc qui veut dire se rendre, donc nous, c'est le contraire. On n'a aucune intention de renoncer. Et c'est aussi pour faire le deuil des gens qui ont perdu leur vie pendant ce mouvement.
Mais la tension monte à présent à différents endroits de l'île de Hong Kong. La plupart des jeunes présents sur place sont à présent masqués, des barricades sont érigées et tout indique que les échauffourées vont durer une bonne partie de la nuit.
Florence de Changy à Hong Kong. Au Japon, nette victoire de la formation du Premier ministre aux élections sénatoriales. Le Parti libéral-démocrate peut se prévaloir d'une confortable majorité à la Chambre haute et Shinzo Abe, lui, peut sereinement envisager de mener à bien sa réforme de la Constitution. Tout laisse à penser que le tout nouveau président ukrainien pourra lui consolider son pouvoir dès l'annonce des résultats des législatives de ce dimanche. Volodymyr Zelensky, humoriste de formation, devrait pour y parvenir faire alliance avec la superstar du rock ukrainien, Yaroslav Vakarchuk, fondateur du nouveau parti Golos, qui a des chances d'entrer à l'Assemblée. Il est troublant de constater que des compagnies comme Air France, Emirates ou encore Etihad n'appliquent pas le principe de précaution qui a conduit British Airways à cesser tout vol vers le Caire et ce pendant une semaine en faisant valoir, je cite, un risque accru de terrorisme. Antoine Gignot est à Londres.
Ce n'est qu'une mesure de précaution, expliquent dans un communiqué les responsables de British Airways. La série d'inspections menée mercredi et jeudi a montré de possibles failles dans le dispositif de sécurité. Il s'agit donc d'étudier en profondeur le fonctionnement de l'aéroport du Caire. Dans l'intervalle, pas de décollage, pas d'atterrissage sur le tarmac égyptien. Les passagers qui devaient voyager dans les jours qui viennent ont reçu, pour les prévenir de l'annulation des vols, des messages électroniques. À l'aéroport d'Heathrow, en Angleterre, plusieurs dizaines d'entre eux ont déjà été refoulés. Le ministère britannique des Affaires étrangères, sans donner de détails, indique sur son site internet un risque élevé de terrorisme aérien, avec une possibilité d'attaque sur l'ensemble du territoire égyptien. C'est la première fois que les vols entre Londres et le Caire s'interrompent depuis le mois d'octobre 2015 et l'attaque à la bombe d'un avion russe parti de Sharm el-Cheikh et qui avait explosé en vol.
Risque sur l'ensemble du territoire égyptien. Quid de la réelle instabilité en Égypte? Nos collègues de France Info ont sollicité Alain Grèche, spécialiste du Moyen-Orient et directeur du journal en ligne Orient 21. Cette mesure, vous allez l'entendre, ne manque pas de l'intriguer.
Elle surprend par le fait qu'elle s'étend à tout le territoire égyptien et que depuis quelque temps, il n'y avait pas eu d'attaque spectaculaire en Égypte. Mais en même temps, elle ne surprend pas parce que la situation en Égypte, depuis la prise du pouvoir par les militaires et le général Sisi, il y a exactement 6 ans maintenant, est totalement instable. Elle est instable dans le Sinaï, où depuis cette période, l'armée est incapable de venir à bout d'une insurrection menée par une branche de l'État islamique, et elle est très instable dans le reste du pays, même si c'est beaucoup moins spectaculaire et il n'y a pas d'attaque terroriste au sens propre du terme, mais il y a une instabilité qui est visible pour tout le monde. L'Égypte est frontalier de la Libye, qui est aussi dans une situation très instable, donc il y a aussi de la circulation d'hommes, d'idées, de matériel. Toute la région était effectivement instable. Mais il faut en même temps dire qu'il n'y a pas eu d'attaque spectaculaire contre des touristes en Égypte depuis relativement longtemps.
Alain Grèche, spécialiste du Moyen-Orient. À 7 mois d'intervalle, la même donne ou presque, décembre 2018, SOS Méditerranée, privée de pavillon, est dans l'obligation de cesser ses opérations de sauvetage et l'Italie verrouille ses ports. Juillet 2019, l'organisation humanitaire associée à Médecins Sans Frontières reprend la mer. Un nouveau navire battant pavillon norvégien, l'Ocean Viking, fait route vers la Méditerranée centrale où tant de réfugiés se noient. L'Italie de Matteo Salvini, elle, criminalise toujours les ONG et rejette toute initiative européenne qui pourrait aboutir à un mécanisme de solidarité. C'est une correspondance de Rome d'Antonino Gallofaro.
Un nouveau navire au sud de ses côtes pour sauver ceux qui tentent à traverser la Méditerranée, mais sa politique reste la même. L'Italie gardera ses ports fermés. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, est devenu encore plus intransigeant. Il est plus que jamais en désaccord avec la France et l'Allemagne sur la queue des migrants. Le chef de la Ligue, le parti d'extrême droite au pouvoir, l'a répété aujourd'hui. Son pays n'est plus disposé à accueillir tous les immigrés arrivant en Europe avant de s'en prendre avec Berlin et Paris. Les deux pays ne peuvent pas décider des politiques migratoires en ignorant les requêtes des pays les plus exposés, comme l'Italie et Malte. Rome réclame donc une meilleure répartition des migrants en Europe et veut une réforme du système de Dublin, système qui impose qu'une personne demande l'asile sur le territoire où il débarque. L'Italie souffre de plus d'un double affront français. D'abord, l'intention de la ville de Paris de décorer Carola Rackete, la capitaine du Sea-Watch, le navire qui a forcé le port de Lampedusa fin juin. Du point de vue italien, la jeune Allemande n'a pas respecté les lois nationales et a mis en danger les gardes-côtes italiens. Et enfin, la subvention de la ville de Paris, toujours, à SOS Méditerranée. La péninsule attend en effet l'Ocean Viking devant ses ports considérés comme les plus sûrs, mais qu'elle gardera fermés. Matteo Salvini a donc décidé de boycotter la réunion informelle sur la question migratoire avec ses homologues demain à Paris.
L'auteur présumé de l'agression mortelle d'un ressortissant guinéen vendredi soir près de Rouen a été identifié par la police, information que l'on doit à nos confrères de France Bleu Normandie. Il est soupçonné d'avoir violemment frappé Mamoudou Barry, doctorant à l'université de Rouen, qui a succombé à ses blessures hier à l'hôpital. Greta Thunberg, entourée de deux vétérans du débarquement, l'égérie de la sauvegarde de la planète qui œuvre à éclairer les consciences et deux libérateurs de l'Europe aux prises avec l'obscurantisme nazi. Image puissante cet après-midi à Caen, à la faveur de la remise du prix Liberté à la jeune militante suédoise mondialement connue. C'est une cérémonie suivie par Marcelin Robine.
Lorsque Greta Thunberg monte sur la scène pour recevoir son prix Liberté, Alice est émue. Cette lycéenne de 18 ans a participé à plusieurs marches pour le climat après avoir vu des discours de la jeune engagée sur Internet.
C'est impressionnant comment elle arrivait à mobiliser des milliers de jeunes partout en France et en Europe, comment elle a réussi à soulever un tel mouvement, quoi. Et c'est vrai qu'elle fait poser plein de questions, et pas qu'aux jeunes, je pense. Et c'est pour ça que c'est assez impressionnant de pouvoir l'avoir ici.
L'adolescente suédoise est devenue une icône de l'écologie en quelques mois. Elle qui mène depuis moins d'un an une grève de l'école pour le climat tous les vendredis. La sécurité est omniprésente pour protéger la jeune fille qui porte un lourd poids sur ses épaules.
C'est une grosse charge pour les jeunes, c'est trop lourd. Mais il faut que l'on se rappelle que nous ne devrions pas porter ce poids seuls. On devrait s'assurer que ce soit aussi les adultes et les gens au pouvoir.
Fabrice est conquis par le discours de la militante pour la planète.
Pour beaucoup de causes qui mettent du temps, en général ça demande une génération, au moins, pour faire bouger les choses. Donc, si les jeunes prennent ça à bras-le-corps, c'est peut-être pas gagné d'avance, mais c'est bon signe.
Greta Thunberg va donner les 25 000 euros de son prix Liberté à plusieurs organisations qui luttent contre le réchauffement climatique.
Marcelin Robine à Caen. Et que dire des canicules qui s'accumulent? Eh bien, avant toute autre chose, qu'elles fragilisent les organismes les plus vulnérables et par conséquent, qu'elles obligent les urgentistes à redoubler d'efforts, à condition d'en avoir les moyens. Frédéric Valtoux est président de la Fédération hospitalière de France.
Les hôpitaux se sont bien sortis, si on peut dire ça comme ça, du précédent épisode de canicule. Tout avait été préparé, anticipé. Et donc, on a montré il y a un mois qu'on était rodé. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la période au cœur de l'été dans laquelle nous sommes est plus sensible que celle du mois de juin, parce qu'on sait qu'il y a des tensions plus fortes sur les effectifs dans les établissements, qu'il y a aussi des tensions plus fortes dans les cabinets de ville, qui sont accessibles. Il y a moins de cabinets de ville ouverts pendant la période estivale. Il y a, comme toile de fond, des tensions extrêmes sur les effectifs hospitaliers qui datent pas de cet été. Il y a 25% des postes de médecins hospitaliers qui ne sont pas pourvus. Il y a dans certains services d'urgence de vraies tensions sur les effectifs de médecins, mais aussi de tout type de personnel, personnel soignant, paramédicaux. Donc on est en permanence, j'allais dire, dans certains services sur le fil du rasoir. Et c'est vrai que les congés d'été ont normalement été organisés de telle manière à ce qu'effectivement on assume la permanence des soins, mais dans des conditions qui sont parfois, faut le dire, hein, un peu acrobatiques. Donc ces tensions sur les effectifs pourraient jouer, mais néanmoins, on parle d'un épisode de canicule de quelques jours et pas de quelques semaines. Et à partir de là, tout devrait se passer normalement.
Les urgences de Pasteur 2 à Nice entreront en grève mercredi prochain, une grève sans préavis et illimitée qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'été. La direction fait un pas vers les syndicats avec des effectifs et du nouveau matériel, mais Force ouvrière et la CGT attendent des mesures supplémentaires. Pour anticiper de futurs dérèglements climatiques, il a été imaginé un concours interuniversitaire qui consiste à dessiner et construire une maison qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire, concours dont les épreuves se déroulent jusqu'au 28 juillet à Budapest. L'idée a motivé des étudiants lillois. C'est un reportage de Florence Labrouillère.
Je viens des Compagnons du Devoir de Lille et je réalise du coup l'installation solaire, eau chaude, eau froide, sanitaire, plus l'eau de pluie du bâtiment.
Antoine Penvech est plombier chauffagiste. Avec une centaine de jeunes des Hauts-de-France, il participe au concours du Solar Décathlon à Budapest. Les Lillois ont construit une petite maison à deux étages sur le modèle des maisons mitoyennes du nord de la France. Seule source d'énergie, les panneaux solaires.
Là, en fait, on fait un prototype où il n'y a pas de chauffage d'apport. On se chauffe uniquement et principalement par le solaire.
Une maison high-tech, mais isolée avec des matériaux très simples et durables. Camille Huguet, étudiante en architecture.
Il y a plein de choses qui peuvent être faites avec des petits budgets et beaucoup de choses qui peuvent être faites main. Par exemple, les enduits, là, c'est de la terre. C'est de la terre et donc la terre, ça gère beaucoup l'hygrométrie en fait. Et donc ça récupère l'eau et ça la redisperse dans la maison par rapport à la température extérieure.
Un projet innovant car les panneaux solaires sont conçus pour chauffer les maisons voisines. Charles Lescure, coordinateur de l'équipe.
On a des éléments dans cette maison qui sont dimensionnés en fait pour plusieurs maisons et qui permettent de simuler un chauffage à l'échelle d'un petit bout d'îlot.
Donc une maison pourrait chauffer plusieurs maisons.
C'est ça, dans l'idée. Donc il y a un achat commun de matériel qui permet de faire des économies pour tout le monde et une installation qui va être reliée à plusieurs habitations.
Le projet pourrait déboucher sur la rénovation de tout un quartier. À Lille, l'idée séduit déjà les bailleurs sociaux. Mutualiser les panneaux solaires permettrait à chaque habitant de réduire sa consommation et sa facture énergétique.
Il est 18h13, vous écoutez le journal de France Culture et la dernière chronique d'Arnaud Laporte et ses moissons d'Avignon, l'ADER et ses Good Vibrations.
C'est en effet devenu le rythme habituel de la cour d'honneur du Palais des Papes. Après Architecture de Pascal Rambert et Outwitting the Devil d'Akram Khan, deux spectacles diversement appréciés, euphémisme, la dernière affiche de cette édition 19 mettra à l'honneur la musique, mais aussi le cinéma, puisque le compositeur et DJ Arnaud Rebottini proposera aux spectateurs de la cour la bande originale du film de Robin Campillo, 120 battements par minute, musique pour laquelle il a reçu un César en 2018. Accompagné par 7 musiciens, le Don Van Club, Rebottini a déjà expérimenté cette forme et encore tout récemment à la Philharmonie de Paris. Si cette bande originale est nourrie de musique impressionniste, elle est surtout imprégnée de house, musique de club des années 80 et 90, contemporaine de l'apparition du sida. On entendra notamment au cours de ce concert une formidable réinterprétation du tube de Bronski Beat, Small Town Boy. Je vois mal comment les 2000 spectateurs de la cour pourront rester assis. Au-delà du plaisir de la musique, de cet appel à la communion, cette soirée sera sans doute à vivre comme un symbole. Dans un festival 2019 marqué par les grandes interrogations contemporaines, qui a proposé de nombreux spectacles traitant de façon plus ou moins détournée du drame des migrants, cette musique, éminemment dionysiaque et festive, musique d'un film qui ne parle que de la mort, proposera peut-être enfin une véritable catharsis aux festivaliers qui en ont bien besoin. C'est tout ce que l'on peut souhaiter pour aborder la suite de nos vies, ou au moins la suite de cet été.
À très bientôt. Merci Arnaud Laporte. Quelques mots de la météo, enfin quelques mots quand même, et un peu plus, car 21 départements du sud-ouest et du centre-est de la France ont été placés en vigilance orange pour canicule à partir de demain matin 6h. Les températures 28 à 32 degrés de la Bretagne au Hauts-de-France et des Ardennes à l'Alsace, 21 à 26 sur les côtes de la Manche, en général 31 à 35 degrés. Cette édition a été préparée avec Benjamin Ducy à la technique Alice Sayed.